Donald Trump fait-il encore la pluie et le beau temps aux États-Unis? Plusieurs tests électoraux majeurs en ce moment semblent le confirmer. Le président accroît son emprise sur le parti républicain et impose sa diplomatie de la loyauté.
Tel un empereur, Donald Trump veut ses symboles, de l'architecture à la manière dont il pilote sa politique étrangère. Il veut marquer l'histoire autour de son nom.
C'est l'ordre du monde.
C'est parti. Salut Annalisa, bonjour à tous.
Salut Mathieu, tu vas bien ?
Ouais, ça va très très bien.
Avec cette actualité internationale toujours très très riche entre l'Ukraine, l'Iran, nous on a choisi de partir de l'autre côté.
C'est ça, outre-Atlantique, d'aller aux États-Unis, exactement. On dit beaucoup, Annalisa, que Donald Trump est malmené dans les sondages là-bas aux États-Unis. Ça c'est une réalité, hein, c'est le sondage du moment. Bien sûr, c'est une photographie au moment T hein, qui peut être contredit la semaine suivante, mais bon, c'est comme ça en ce moment. Et pourtant, toi tu as décortiqué de manière chirurgicale des élections qui se passent en ce moment dans des régions test, dans des états test et cruciaux aux États-Unis. Et en fait, ça nous montre que Donald Trump, il a encore beaucoup de pouvoir et qu'il fait un peu la pluie et le beau temps là-bas, hein, sur les élections.
Oui, en fait, il garde encore un contrôle et même une emprise, surtout sur son parti, sur le parti républicain. En effet, il y a en ce moment les primaires, non ? Parce qu'il faudra décider aux midterms, donc cet automne. Il y aura énormément d'élections locales, donc dans les états... dans les différents états.
Et ça va redessiner la figure des chambres, du congrès, etc.
Voilà, et donc quand on dit que Donald Trump est en difficulté, qu'il est un peu en état de faiblesse, on parle des midterms, on en a beaucoup parlé. À chaque fois qu'on parle de la guerre en Iran, on sait que Donald Trump a aussi cette échéance électorale qui arrive, qui est celle des élections demi-mandat. On en a parlé notamment avec Romuald Sura, qui est un de nos experts sur les États-Unis, qui est venu nous voir il y a quelques semaines. Donc on en avait parlé aussi de cette échéance électorale. Et on sait aussi historiquement que les élections demi-mandat sont défavorables au pouvoir en place. Donc quand c'est les républicains, les élections demi-mandat favorise plutôt les démocrates et l'inverse est vrai historiquement. Donc on parle plutôt de ça. Et c'est en ce moment donc que les partis et les démocrates et les républicains choisissent leur candidat pour ensuite aller se présenter aux élections de mi-mandat. Et ce qu'on voit, Mathieu, c'est que les républicains qui sont soutenus par Donald Trump gagnent. Et donc que l'appui de Donald Trump dernièrement devient une espèce de gage de succès.
C'est une marque un peu booster pour ceux qui se présentent quand ils ont le soutien de Trump. T'allais regarder par exemple ce qui se passe dans l'Iowa.
Parce que c'est la seule exception, donc je veux l'évacuer tout de suite. C'est parce que le candidat qui a été endorsed, donc appuyé par Donald Trump, c'est Randy Feenstra, a été défait. Il avait été soutenu par Donald Trump et donc c'est son adversaire Zach Lane qui a gagné cette campagne-là. Mais il avait fait campagne avec des slogans archi-trumpiens. C'était du Trump pour jus. Rendre l'Iowa à nouveau en bonne santé. L'Iowa d'abord. Donc tu vois, en fait, c'est du Trump tout craché. Mais sinon, dans le reste des États, ce qu'on voit, c'est que le candidat soutenu par Donald Trump est toujours en tête. On a vu, par exemple, en Louisiane, toujours chez les Républicains, Bill Cassidy, qui est donc qui est sénateur de Louisiane sortant, a été battu par la candidate soutenue par Donald Trump. Et à chaque fois, on commence à connaître la méthode de Donald Trump, à chaque fois, il y a des raisons personnelles. Dans ce cas-là, Bill Cassidy était l'un des 7 sénateurs républicains qui ont voté pour la destitution de Donald Trump après l'attaque du Capitole début 2021. Mmh. Évidemment, Trump s'en rappelle 5 ans après. Et il fait tout pour le faire battre. Même chose au Kentucky. On en a énormément parlé dans les médias américains et on en a parlé aussi, nous, sur notre antenne. Il y avait un candidat, c'était le sortant Thomas Massey. Et en fait, Donald Trump a été archi-violent contre Thomas Massey, contre ce candidat.
Qu'est-ce qu'il lui avait fait ?
Eh ben, il
qu'est-ce que Thomas Massie avait fait à Donald Trump cette fois, ce qu'on dirait.
Ben, c'était le pire des crimes, le plus grave des crimes pour Donald Trump, c'est qu'il avait manqué de loyauté à plusieurs reprises.
C'est dingue.
Il avait voté contre la réforme fiscale et budgétaire de Donald Trump. Il avait soutenu l'abrogation.
Le One Big Beautiful.
Exactement, Bill Act.
Bill Act.
Il avait soutenu l'abrogation de droits de douane que Donald Trump voulait imposer au Canada.
Ouais.
Et puis il avait beaucoup travaillé pour forcer le ministère de la Justice à publier tous les documents de l'affaire Epstein.
Ouais.
Donc, effectivement, ça fait beaucoup de choses.
Wow.
Pour Donald Trump, c'était devenu
cible. C'est fou ce que tu nous racontes, parce qu'on a vraiment l'impression qu'au-dessus de ces élections test en ce moment, de ces primaires, on a un Donald Trump qui est comme un empereur, et puis il a le pouce levé ou le pouce baissé, quoi. C'est un peu ça ce qui se passe.
Exactement. Et ça, c'est dans toutes ces élections. Voilà, je vous ai cité la Louisiane, le Kentucky, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a le Texas, par exemple, il y a l'Indiana. Et donc, à mon avis, ça veut dire trois choses, ce soutien de Donald Trump qui arrive à faire gagner tous ses candidats. Bah, premièrement, ça veut dire que l'emprise de Donald Trump sur le Parti républicain, elle est encore totale.
Très forte.
On a dit qu'il s'affaiblissait, oui. Ce n'est pas le cas. Effectivement, il y a des menaces, effectivement, il y a des méthodes particulièrement violentes, mais d'un côté, c'est la politique. Et il y a une sénatrice de l'Indiana qui a été battue en l'occurrence et qui a bien expliqué tout ça. Elle dit que la méthode Donald Trump d'avoir une telle violence envers ses adversaires politiques, par exemple Thomas Massie, qui d'ailleurs n'est pas vraiment un adversaire politique redoutable, je veux dire, Thomas Massie, personne ne le voit à la Maison Blanche dans 4 ans, il n'est pas très important au niveau national. Elle dit qu'effectivement, cette violence de Donald Trump décourage probablement d'autres personnes dans d'autres États de prendre des positions controversées, en tout cas contraires à l'avis du président. Et donc, si quelqu'un demande à l'avenir de prendre une décision difficile, il faudra réfléchir peut-être à deux fois avant de suivre sa conscience et de demander ce qui est mieux pour la communauté. Il faudra plutôt se concentrer sur ce qui est mieux pour soi et pour sa carrière.
Ces élections, c'est aussi une histoire de gros sous. Hein.
Toujours, toujours. Et à mon avis, c'est la deuxième chose que ça montre, c'est que les républicains dépensent des sommes record. Je vais te faire un exemple encore pour le Kentucky, par exemple. Il y a 33 millions de dollars qui ont été dépensés en publicité, c'est un record, et 19 millions ont été dépensés pour Ed Gallrein, donc le candidat soutenu par Donald Trump contre Thomas Massie. Et le fait qu'ils dépensent autant, les républicains, ça veut dire que ces élections-là sont un test. Et que donc, pour Donald Trump, il est limite plus important, pour l'instant, de gagner ses primaires, pour montrer qu'il a encore la main, plutôt que de gagner effectivement les midterms, puisque sur les midterms, parfois, d'avoir un candidat un peu moins divisif, un peu moins trumpien, ça pourrait peut-être l'avantager dans certains États. Et puis, une troisième chose, à mon avis, c'est que c'est vrai que Donald Trump est en difficulté dans les sondages, on l'a vu, on sait que les Américains n'approuvent pas totalement sa guerre en Iran, qu'il y a une vraie rupture avec la base MAGA, qui considère que l'Amérique doit être first, non ? Donc qu'il faut d'abord mettre les intérêts américains avant d'aller s'engager dans des guerres à l'autre bout de la planète. Mais en réalité, quand il s'agit de voter, pour un candidat, être soutenu par Donald Trump, c'est plutôt positif quand même.
Qu'est-ce qui s'est passé en Californie ? On sait que la Californie, quand même, c'est l'État démocrate par excellence. C'est aussi une puissance mondiale, qui a un PIB peut-être le plus puissant des États-Unis. À lui seul, à un moment, il était proche de celui de la France. Voilà, donc c'est un État dans l'État.
Écoute, ça m'a beaucoup intéressé ce qui s'est passé en Californie, et je pense que c'est vraiment intéressant à regarder, parce qu'en fait, la Californie n'a pas une primaire démocrate et une primaire républicaine. Il y a une seule primaire, une primaire non partisane, donc où tout le monde peut s'inscrire, et en fait les deux candidats qui arrivent en tête se présentent ensuite à l'élection. Pour faire simple, en Europe, on dirait que c'est un premier tour où tout le monde se présente, et ensuite les deux qui ont reçu le plus de préférences peuvent se présenter. Et donc là, bon, la Californie, c'est un bastion démocrate depuis au moins 15 ans. Les démocrates gagnent assez largement. Et là, cette fois-ci, les démocrates étaient tellement divisés qu'ils ont failli perdre la Californie. Il y avait 60 candidats, plus de 60 candidats.
Ouais.
24 étaient démocrates. Il n'y avait aucun démocrate connu, alors que la Californie a beaucoup de représentants démocrates connus. Évidemment, il y a Gavin Newsom qui est le gouverneur sortant qui ne pouvait pas se représenter.
C'est ça, parce que la Californie, de ce que tu expliques, c'est une sorte de proportionnelle très forte, oui. Et donc plus il y a de candidats, plus ça fragmente en fait l'offre politique.
C'est ça.
Et là, vaut mieux faire bloc pour avoir du monde derrière soi.
En
et
fait,
là, ils étaient divisés.
Ouais, mais c'est aussi beaucoup plus divisé. Pourtant, il y a Kamala Harris qui ne s'est pas présentée, il y a Nancy Pelosi qui ne s'est pas présentée non plus. Enfin, tu vois, il y avait un vide, il n'y avait pas vraiment de démocrates très représentatifs. Et en revanche, il y avait deux républicains assez forts, Steve Hilton et Chad Bianco. Et donc, à un moment, on a cru qu'il allait y avoir deux républicains au deuxième tour.
Là, ça aurait été un
voilà,
séisme.
Ça aurait été une catastrophe pour les démocrates.
Cataclysmique pour les démocrates.
Bon, en réalité, ce n'est pas le cas. Il y a Xavier Becerra qui est démocrate, qui est passé, et Steve Hilton, donc le républicain, qui est passé. Tu vois, les démocrates se sont fait très très peur, et Donald Trump, évidemment, se frotte les mains.
Évidemment.
T'imagines quand la Californie risque, même de manière hypothétique, de basculer aux républicains. Ouais. C'est quand même très grave. Et Steve Hilton, par ailleurs, est encore une fois le candidat républicain que Donald Trump avait appuyé.
En tout cas, de tout ce que tu nous racontes, Annalisa, et c'est passionnant, et on se rend compte que Donald Trump, en fait, sa stratégie, ou ce qu'il impose un peu par la force, c'est la loyauté, la fidélité. Ceux qui lui sont loyaux vont récolter les bénéfices de leur loyauté. Ça fonctionne finalement, sa stratégie Donald Trump. Pourtant, il y a une petite musique qui monte ces derniers temps, qui sont jouées notamment par tous ses détracteurs, qui disent qu'il a une santé mentale défaillante pour tenter de le décrédibiliser. Pour l'instant, ça déjoue tous ses pronostics et Donald Trump, il semble avoir repris la main.
Je crois que tu fais référence à quand il avait envoyé son tweet très polémique sur le fait qu'il allait détruire une civilisation en Iran. Ouais. Beaucoup d'élus avaient parlé du 25e amendement qui prévoit encore de destituer le président américain en cas d'incapacité d'exercer les fonctions. Et donc il sous-entendait qu'il y avait un problème de santé mentale pour Donald Trump. Alors lui, il dit que tout va bien. Il a publié sur son réseau Truth un article d'un petit média américain qui relate son bilan médical écrit par le médecin du président Sean Barbabella, qui lui donne un score normal de 30 sur 30 sur son évaluation cognitive. Il démontre 14 ans de moins que ce qu'il fait. C'est pas mal, hein, 14 ans de moins que ce qu'il fait. Moi, j'aimerais bien. Et en revanche, bon, il a pris 6 kilos en un an et il doit continuer à maigrir. Mais qui écarte tous les soupçons de petites faiblesses intellectuelles. Donc lui, en tout cas, tient vraiment à le dire, il n'y a aucun problème intellectuel.
Oui.
Entendu.
En même temps, c'est normal.
Biden, qui lui était sénile, il a été accusé.
Et puis j'allais dire, on enfonce un peu une porte ouverte parce qu'un empereur, il n'est jamais malade.
Ah oui.
Annalisa.
Ah oui, parce que un empereur ne peut pas être malade. Je sais que toi, t'as beaucoup travaillé cette semaine sur justement tous les symboles impériaux de Donald Trump et tout ce qu'il essaye de faire. Là, on a parlé de politique nationale, mais surtout dans sa politique étrangère.
Oui, parce que ça m'intéresse et ça fait vraiment écho à tout ce que tu nous racontes depuis le début sur ses nominations, sur ses soutiens, sur le pouce levé, baissé, sur les candidats en interne, sur les nominations à l'étranger. C'est que du cercle proche, c'est clanique. Il faut voir que précédemment, les présidents américains, ils ont tous laissé des doctrines. Hein. Il y a la doctrine Monroe, il y a une doctrine Truman, une doctrine Reagan, Bush, etc. Lui, Donald Trump, moi j'ai le sentiment en fait qu'il, plus qu'une doctrine, en fait lui, il laisse une marque, la marque Trump. Et en fait, derrière la marque...
Très commercial.
Exactement. Et derrière la marque, tu as cette notion de franchise. Et derrière la franchise, tu as quoi ? Tu as le business. Et le business, il est vraiment au cœur de sa politique étrangère. Quand tu regardes Groenland, Canada, Panama, Trump, il parle, ou c'est cosmétique, mais il parle jamais de traité, d'accord ? Il parle de quoi ? Quand tu regardes ces mots qu'il prononce, c'est acheter, annexé, renommé. Et en fait, il l'assume totalement dans sa rhétorique. Il rappelle son passé de promoteur immobilier à New York. C'est un promoteur qui est aux manettes de la première puissance mondiale. Et puis, il y a sa gouvernance, avec tout ce que tu rappelais dans son style, etc., et dans sa manière d'agir, sa gouvernance qui est totalement Klanik. J'ai lu cette semaine, ça c'est passionnant, je vous recommande, deux chercheurs américains qui s'appellent Stacy Goddard et Abraham Newman, qui signent un texte dans un livre qui vient de sortir cette semaine, qui s'appelle « L'ennemi qui nous désigne », c'est chez Gallimard, et en fait ils racontent que Trump est en train de dessiner, comme ils l'appellent, un nouvel ordre mondial, et que Trump incarne le néo-royalisme de notre époque. Pour comprendre la politique étrangère de Trump, raconte-t-il, il faut partir de son clan, un clan qui est en trois strates. Tu as la famille de Trump, tu as les idéologues de Trump, par exemple Stephen Miller, son ex-conseiller, et tu as ses soutiens économiques, pour la plupart les techno-libertariens de la Silicon Valley comme Peter Thiel. Et dans toutes les actions et positions de Trump, que ce soit Moyen-Orient, Gaza, Venezuela, Groenland, partout à chaque fois, tu as cette logique clientéliste qui revient avec chacune de ces trois parties qui est désireuse de retirer les profits des actions de Donald Trump.
Et en fait, parfois tout se mélange aussi.
Parfois tout se mélange. Et en fait, cette logique clanique, c'est quelque chose qui illustre vraiment, c'est un trait de notre époque que tu retrouves aussi, racontent ces chercheurs américains, chez Poutine, chez Xi Jinping, chez Narendra Modi, chez l'ex-Viktor Orban qui vient de sortir après 16 ans au pouvoir en Hongrie. Ça, c'est le néo-royalisme de notre époque, avec peut-être en tête de gondole Donald Trump.
C'est de plus en plus des empereurs. D'ailleurs, lui, il a effectivement, il a instauré ce système dès son arrivée au pouvoir, mais on a l'impression qu'il le peaufine petit à petit, tu me diras ce que tu en penses, avec les symboles.
C'est
parce
ça.
Qu'il a une obsession pour les symboles. Et dernièrement, il y travaille beaucoup.
Et une obsession qui est un peu contagieuse, j'allais dire à observer. C'est-à-dire que moi, ça m'obsède un peu de voir tous ces symboles. Il y a quelque chose d'assez fascinant, je trouve, à voir, mais qui fait peut-être aussi un peu peur.
Enfin, tout est politique, évidemment.
Pour ses 80 ans, Donald Trump, on sait, il est en train de faire construire un octogone géant.
C'est quoi, c'est le 14 juin ?
C'est le 14 juin, ouais. Il va avoir 80 ans et donc il fait construire un octogone géant. C'est une arène de MMA, tu sais, ce sport donc, de combat hyper violent, qui est aussi hyper populaire. Et il y a la chaîne ABC qui s'est procuré des images satellites qu'ils ont analysées, qui dévoilent un chantier colossal. On voit que cet octogone devant la Maison Blanche, il fait plus de deux fois la taille de la Maison Blanche.
Mais attends, l'arène est plus grande que la Maison Blanche ?
L'arène est plus grande que la Maison Blanche. Hein. On peut le voir sur les images satellites analysées par ABC. Et derrière, tu as encore, tu sais, on est dans une société du spectacle poussé à l'extrême. Hein. Déjà, les États-Unis, c'est le pays de l'entertainment. Avec Donald Trump, c'est poussé encore à vitesse grand V. Et j'aimerais te faire écouter quand même la très puissante UFC. C'est l'Ultimate Fighting Championship. C'est l'équivalent de la NBA, mais du MMA. Là, ils sont à fond, ils sont au taquet. C'est eux qui font pour Trump ces matchs de combat devant la Maison Blanche, et il publie sur les réseaux sociaux ce genre de teasing assez hollywoodien. Écoutez ça et regardez ça.
Where it is, when it is, what it represents, everything about this makes this the most historic sporting event of all time.
Tintin, tu vois, donc là vraiment, on dirait des gladiateurs en fait. C'est des gladiateurs, c'est des gladiateurs qui sont mis en scène.
Ça, c'est un teaser
à la gloire de Donald Trump. C'est un événement qui se veut planétaire, qui doit être planétaire. Et cette arène du MMA, c'est là où ça devient fascinant, c'est que Donald Trump, il l'a pensé vraiment comme un Colisée contemporain. C'est le nouveau Colisée où les Américains pourront assister gratuitement au spectacle, au combat. Et il y a d'ailleurs un parc qui est prévu au sud de la Maison Blanche qui pourra accueillir 75 000 à 100 000 personnes. C'est démentiel.
Mais du coup, ça dure jusque quand ? Et après, ils en font quoi ?
Ah ben, alors, là encore, on est dans les symboles. Tu vas voir, cette structure, elle était censée être temporaire pour fêter, dans la sueur, les 80 ans de Donald Trump. Mais lui, Donald Trump, il veut laisser son empreinte. On en parle depuis le début. Et il a un exemple en tête qu'il a expliqué à travers un post sur TikTok cette semaine, c'est l'exemple de la Tour Eiffel.
Oui, oui, oui. Il devait être temporaire.
Exactement. Bah, écoute Donald Trump. Écoute Donald Trump.
Quand la Tour Eiffel a été construite, elle devait être démontée immédiatement après l'exposition universelle. Puis les Français se sont dit, on l'aime bien. Alors ils ont décidé de la laisser un peu plus longtemps. Ce que nous construisons devant la Maison Blanche plaît à beaucoup de gens. Et je me dis que cette structure, peut-être que nous ne la démonterons jamais.
C'est incroyable. Mais il n'a pas tort.
Non, non, non. Mais et en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'il regarde autour de, dans le monde entier, les symboles de puissance, et il dit je veux les miens, mais en plus gros. Je veux les miens, mais en plus
meilleur.
Gros.
Bah oui.
En meilleur et en plus gros. Et donc, c'est pour ça que tu as des symboles qui se multiplient. Il faut voir que Donald Trump, il a commandé une arche de triomphe monumentale.
Oui, plus jolie que la française, plus grande.
Plus grande, exactement. Elle doit faire 76 mètres de haut. C'est 26 de plus que celle qu'avait commandé Napoléon pour Paris. C'est ça qu'il a en tête. Il veut un truc plus grand que ce qu'avait commandé Napoléon. Et ce qui est aussi dingue, c'est qu'en amont de cette commande, Donald Trump, il a pris soin de recomposer la commission des Beaux-Arts. En fait, il a viré les 6 membres de cette commission qui décide ce qu'on a le droit de construire ou pas à Washington, et il a mis à la place une nouvelle équipe de 6 membres qui étaient loyaux, tous acquis à sa cause, malgré une opposition publique qui était massive contre ce monument colossal. Et quand un journaliste a demandé à Donald Trump pour qui allait être cette arche de triomphe, tu sais ce qu'il a répondu ?
Dis-moi.
Pour moi.
Pour lui, bah oui. Bah oui, forcément. Et c'est un peu un concours de... Non ?
Qui veut faire le plus grand bâtiment. C'est le concours du plus gros bâtiment. Tu sais, il a sa salle de bal, par exemple. La salle de bal XXL, qui doit remplacer l'aile est de la Maison Blanche. Pareil, là-dessus, la chaîne ABC a eu des photos satellites qui sont impressionnantes. La Maison Blanche, pour ceux qui nous regardent sur ce podcast, la Maison Blanche, elle paraît minuscule à côté du chantier. Alors là, qui doit faire au moins 4 ou 5 fois la taille de la Maison Blanche.
C'est soirée dansante et après combat.
C'est ça, exactement, pour les 1000 invités. Hein, c'est une salle qui peut accueillir 1000 invités, 1000 VIP.
C'est l'illustration de la puissance américaine, évidemment, exactement, par la blague.
Exactement. Et ce que je trouve assez fascinant en ce moment, c'est que Donald Trump, en fait, intervient sur les chantiers architecturaux. Il veut remodeler aussi l'esthétique de Washington DC. Et il veut même imposer un style architectural qui soit classique. Et pour ça, il a signé un décret. Il avait déjà fait un décret lors de son premier mandat pour intervenir sur l'architecture. Là, il est allé encore un peu plus loin et fin août dernier, il a signé dans le bureau ovale un décret qui est intitulé « Rendre belle l'architecture fédérale ». Et en fait, tu as un article de ce décret qui rappelle la vision architecturale des pères fondateurs. Ce que tu peux lire sur ce décret, c'est que le président George Washington et Thomas Jefferson, qui était son secrétaire d'État, ils se sont inspirés d'Athènes et de Rome pour dessiner Washington. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchaient à établir un lien visuel entre la République américaine et les fondements de la démocratie dans l'Antiquité. Et donc, depuis qu'il est de retour, là, tu as Trump qui multiplie les interventions architecturales en suivant ses principes d'architecture classique.
Alors, très bien, mais Donald Trump et les pères fondateurs, moi, je suis pas sûr de voir le lien. C'est peut-être le seul sujet sur lequel il y a...
Bah en fait, il se revendique d'être dans la lignée des pères fondateurs, mais sur ce terrain-là, il n'est pas vraiment dans l'esprit des pionniers. Il faut voir que sa salle de bal XXL, tu l'as très bien relevé, c'est un outil qui est destiné à mettre en scène la puissance, la grandeur des États-Unis. Mais ce faste-là, en fait, il n'était pas vraiment dans l'ADN des pionniers, dans l'ADN de Thomas Jefferson et de George Washington. J'ai découvert, moi, je ne savais pas, mais à l'origine, en 1791, tu as un architecte français qui s'appelait Pierre-Charles L'Enfant. C'était lui qui devait imaginer la Maison Blanche et la dessiner. Il a dessiné un projet de Maison Blanche monumentale qui, en fait, était 5 fois plus grand que la Maison Blanche actuelle. Or, à l'époque, George Washington a jugé que ce projet du français était beaucoup trop vaste. Il n'était pas assez modeste pour une société démocratique. Et qu'est-ce qu'il a fait, Washington ? Il a congédié l'architecte français. Il l'a remplacé par un Irlandais, James Hoban, dont le projet est beaucoup plus sobre. En fait, l'idée, selon George Washington, c'est de se différencier des grands palais type Versailles et de renvoyer l'image d'une résidence, la Maison Blanche, qui doit être celle d'un président qui est un citoyen élu et qui n'est pas un monarque. Voilà, donc pour terminer sur ce sujet, ça montre bien tout ce qu'on raconte depuis le début, qu'on est à l'ère d'un empire, de l'empire Trump, et que les symboles se multiplient sur sa politique interne, comme l'architecture, la politique étrangère, partout. Écoute, c'est un empire.
On va rentrer un peu dans ton obsession, parce que j'ai trouvé ça très intéressant.
Voilà.
Ce sujet.
On va passer à nos radars, Annalisa. Qu'est-ce que tu surveilles, toi, cette semaine ?
Non, commence, parce que toi, tu vas avoir un truc plus sérieux. Oui, oui.
Bon, alors, moi, sur mon radar, je voulais parler du G7, qui a lieu du 15 au 17 juin, à Évian.
Oui.
Je veux juste savoir, justement, pour rester sur Donald Trump, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire, sachant que c'est une enceinte, là, pour ceux qui nous regardent, c'est des images de l'année dernière où ils étaient tous au Canada, mais en fait, ils se retrouvent dans une enceinte multilatérale où tu as, aux côtés de Donald Trump, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et la France. Bon, il est quasiment en guerre ouverte, j'allais dire culturelle et diplomatique, contre quasiment tous ces pays. On sait qu'il a mis un coup de fourmilière sur tout ce qui représente le multilatéralisme. Il dit que tout l'ordre hérité de 1945, etc., c'est quelque part à mettre à la poubelle, faut redessiner un monde selon sa vision. Et là, on est peut-être dans l'enceinte qui symbolise le plus ce monde que Donald Trump veut bousculer. Donc, est-ce que ce sera la dernière de ce format-là? Je ne sais pas. Mais bon, on va regarder les mots qu'il va choisir et l'attitude qu'il aura au sein du G7. Tu voulais terminer sur un truc un peu plus léger, je crois.
Oui.
Vas-y.
Moi, je surveille Roland Garros, les demi-finales féminines. Bon, nous, on enregistre ce podcast jeudi à la mi-journée, donc vous aurez la chance d'en savoir un peu plus. Mais tu sais, la semaine dernière, on parlait de la Coupe du Monde de football, qui est évidemment archi-géopolitique. Là, c'est pareil, puisque en demi-finale de Roland Garros, je ne sais pas si tu suis le tennis. Chez les femmes, il y a une Ukrainienne, Marta Kostyuk, contre une Russe, Marta Mirandreva, et de l'autre côté, il y a une autre Russe, donc Diana Schneider, contre Maya Szwalinska, qui elle est polonaise, et la Pologne est un des pays qui soutient le plus l'Ukraine. Donc voilà, tu vois, c'est des deux côtés du tableau, il y a un défi entre la Russie et cette partie de l'Europe qui est soit en guerre, soit menacée en première ligne par la Russie. Et il y a tout un sujet au tennis, parce qu'évidemment, tout le monde peut quand même participer. Il n'y a pas d'équipe exclue. Ce n'est pas comme à l'Eurovision, où, par exemple, la Russie a été exclue. Bon, là, tout le monde peut jouer. En revanche, sans drapeau. Donc, par exemple, les deux Russes jouent sans drapeau. Arina Sabalenka, la numéro 1 mondiale, elle joue sans drapeau, et les Biélorusses. Et il y a tout un sujet sur est-ce qu'on se serre la main? Est-ce que on reconnaît l'adversaire après?
Mais c'est pas un petit sujet, hein. Là, on est vraiment dans la géopolitique du sport extrême.
Il faut bien surveiller ce que font les Ukrainiennes et les Russes, et la Polonaise en l'occurrence, parce que tout est symbolique. Donc, choisir de serrer la main ou pas, choisir de terminer, par exemple, un discours avec Slava Ukraini, Gloire à l'Ukraine, ça veut tout dire. Et évidemment, tout est symbolique, surtout dans le sport. Tout est politique et géopolitique, clairement.
Voilà. Eh ben, on va suivre ce match géopolitique. Russie contre Ukraine à Roland Garros. C'est extrêmement géopolitique. Merci Annalisa.
Merci à toi Mathieu. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Oui.
Ouais.
Tu es là. Tu ne m'abandonnes plus, hein.
Ah non. Toi non plus, hein.
Non.
Bon, en tout cas, on est très heureux de continuer à vous faire vivre cette géopolitique. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. Il y a de plus en plus d'abonnés. Ça fait plaisir à voir. Continuez à nous écrire des questions, à nous envoyer vos recommandations aussi. Je crois qu'il y en a de plus en plus qui veulent qu'on parle en ce moment de la Chine, de Xi Jinping. Hein, on va peut-être y revenir bientôt.
Et si vous avez des envies, des idées pour les prochains épisodes, vous n'hésitez pas à nous les signaler, soit sur nos épisodes, sur les plateformes de podcast, sur l'appli BFM, sur YouTube, ou alors nous deux, Mathieu Jolivet, Annalisa Capellini sur les réseaux, vous nous trouvez facilement. Vous pouvez clairement nous écrire et nous dire ce que vous en pensez.
Et on vous répondra avec plaisir.
Avec grand plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Salut Annalisa, au revoir à tous.
Mathieu.